Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 17h passé de 24 minutes. Vous êtes sur Studio Tamani, fidèle auditeur. Bonsoir et merci pour votre constante fidélité à la une de ce journal. Un an de prison, dont 6 mois avec sursis, c'est la peine requise par le procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité contre le journaliste Shahana Takiou. Les délibérés est attendu pour le 3 août prochain. L'application de la loi accordant un quota de 30% aux femmes au poste nominatif reste butée à de nombreux défis. Quelles en sont les causes en prélude à la journée panafricaine de la femme? Nous nous intéressons au sujet. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre. À la présentation, je suis Lala Diarra Touré. Le procès du journaliste Shahana Takiou, directeur de publication du journal 22 septembre, s'est ouvert ce lundi devant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Après plusieurs heures de débat, le ministère public a requis un an de prison, dont 6 mois avec sursis. La défense, quant à elle, a demandé la relaxe de son client. Maman Babakunta a suivi pour Studio Tamani.
À la barre, Shahana Takiou, directeur de publication du journal 22 septembre, est revenu sur les faits qui lui sont reprochés et a sollicité sa mise en liberté. Les débats se sont déroulés dans une atmosphère parfois tendue. Les échanges entre le ministère public et les avocats de la défense étaient particulièrement animés. Au terme de son réquisitoire, le procureur a demandé au tribunal une peine d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis. En réponse, les avocats de M. Takiou ont plaidé la relaxe pure et simple du journaliste, estimant que les faits poursuivis ne sont pas suffisamment établis. Shahana Takiou est poursuivi pour diffusion et publication d'informations fausses et trompeuses avec l'intention que ces informations soient considérées comme authentiques, atteinte au crédit de l'État à travers l'institution judiciaire. Le jugement a été mis en délibéré pour le 3 août.
Un autre procès s'est tenu aujourd'hui, c'est celui de Adamo Diaradi Ben Le Cerveau, inculpé pour menace et injures par le biais d'un système d'information. Son jugement a eu lieu devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako. Le procureur a requis 10 ans de prison ferme contre l'accusé. Le verdict est également attendu pour le 3 août prochain. Dans un autre registre, à présent, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi à Bamako pour une visite de travail et d'amitié. Selon certaines sources, cette visite sera mise à profit par le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, pour redessiner les rapports entre cette organisation et l'AES. Une démarche qui pourrait contribuer à réduire les tensions accumulées depuis des années. Je vous le disais à l'entame de ce journal, à l'occasion de la journée panafricaine de la femme célébrée ce 31 juillet, la question de la place des femmes dans les instances de décision refait surface. Si la loi prévoit un quota de 30% de femmes au poste nominatif et électif, son application reste un défi. Mariam Koulibaly s'est intéressée à la question suivant son reportage.
Au Mali, la loi 052 fixe un quota de 30% de femmes au poste nominatif et électif. Pour Assita Sidibé, présidente du consortium des organisations féminines pour la promotion et l'émergence des femmes de Koulikoro, il faut poursuivre le plaidoyer afin que cette disposition soit pleinement respectée, notamment au sein des collectivités territoriales.
L'article numéro 3 du décret d'application, ils ont cité quand même des domaines où la loi sera appliquée, mais il n'y a pas le gouvernement. Et quand on prend l'article numéro 5 aussi du décret d'application, on voit aussi que dans la mise en place des bureaux communaux, et la loi doit être appliquée là-bas, mais la loi n'est pas appliquée aussi là-bas. Ce qui fait qu'on voit les maires et ses adjoints, il n'y a pas de femmes.
Pour la professeure Jacqueline Konate-Sogoba, directrice générale du Centre d'intelligence artificielle et robotique de l'USTTB, les mentalités évoluent. Selon elle, lorsqu'une femme possède les compétences requises, rien ne devrait l'empêcher d'occuper un poste de responsabilité.
Des critères qui sont définis, si tu remplis ça, il n'y a aucun problème. Tu progresses normalement. Sinon, institutionnellement, il n'y a rien qui empêche les femmes.
Pour ces deux responsables, l'essentiel n'est pas d'attribuer des postes aux femmes par principe, mais de leur garantir les mêmes chances de faire valoir leurs compétences et leur leadership.
Studio Tamani est un projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par la coopération suisse, la coopération espagnole, l'Union européenne et le gouvernement norvégien.
La 32e édition de la campagne nationale de reboisement est désormais lancée à travers le Mali, de Gao à Kaï en passant par Koutiala, San, Kita ou encore Onsongo. Autorités, jeunes et populations ont mis les premiers plans en terre. Partout, le même message, faire de la protection de l'environnement une responsabilité partagée. Maria Maïga nous en dit plus.
Le Mali veut verdir son territoire. La campagne nationale de reboisement 2026 a été lancée ce week-end dans plusieurs régions du pays sous le thème « La jeunesse au cœur de la citoyenneté environnementale pour un Mali plus vert et plus résilient » avec pour slogan « Un arbre pour chacun, un Mali vert pour tous ». À Ansongo, Kuchala, Kai, Gao, Douanzan, Banamba, Massina, Kita, San, Nyoro et Kadjolo, les autorités, les services des eaux et forêts et les populations ont procédé aux premières plantation. Au-delà des mises en terre, les responsables ont insisté sur l'entretien des plants, la restauration des écosystèmes et l'implication des jeunes dans la lutte contre la désertification. La campagne se poursuivra tout au long de la saison des pluies. L'objectif est de mettre en terre 20 millions de plants à travers les différentes régions du pays.
Point final à ce journal. Nohum Diriti à la mise en onde. Merci pour votre aimable attention. Bonsoir. Principal cours d'eau de la région de Kai, le fleuve Sénégal est au cœur de la vie économique et sociale. Il fait vivre des milliers de personnes grâce à la pêche, au maraîchage, à l'agriculture, à la navigation et à la production d'électricité. Mais aujourd'hui, ce patrimoine naturel est gravement menacé par les activités humaines. Les acteurs chargés de sa protection appellent à des actions urgentes pour sauver le fleuve. Le fleuve Sénégal, un patrimoine vital menacé, c'est le sujet du magazine Parlons Environnement, réalisé par Fatia Tara.
Il est 10h, Ali Tomota, Amar Saba. L'air quelque peu dépité. La partie de pêche de ce jour n'a pas été fructueuse. Les pêcheurs quinquagénaires déplorent une baisse drastique de la quantité de poissons dans le fleuve.
Autrefois, on pouvait pêcher 25 kg de poissons en une partie de pêche, mais la situation est carrément différente de nos jours. On pêche à peine de quoi faire la sauce pour la famille. Cela est dû à la pollution de l'eau par les ordures ménagères et industrielles. Ces ordures mettent en danger les animaux aquatiques, surtout les poissons.
Le fleuve Sénégal, le seul traversant la ville de Kai, est de plus en plus menacé par la pollution. Un tour sur les berges du cours d'eau, transformé en dépotoir, nous permet de constater l'ampleur de cette menace. Madame Doumbia Kadija Touré est la présidente de l'association Moussoseko, un groupement de femmes engagées en faveur de la protection de l'environnement. Elle décrit l'impact de cette pollution sur le fleuve.
La situation s'améliore par rapport à l'insalubrité du fleuve. Mais les mauvaises pratiques persistent. À Kai, de nos jours, le poisson se fait de plus en plus rare sur le marché. La région regorgeait beaucoup de cours d'eau, mais ils sont complètement asséchés.
À Kai, la situation du fleuve Sénégal préoccupe les services en charge de la protection de l'environnement. Mamadou Konaté, chef de division contrôle et suivi évaluation environnementale à la direction régionale de l'assainissement du contrôle de pollution et nuisances de Kai.
Si le sable continue à descendre dans le lit du fleuve, finalement, le lit même sera fermé, il n'y aura plus d'eau dedans. Ça projette déjà la disparition très prochaine de ces fleuves.
Même inquiétude chez le directeur régional des eaux et forêts, le lieutenant-colonel Idissa Meiga alerte sur une autre menace sur le fleuve qui est le dragage.
En tout cas, le fleuve est beaucoup menacé. Et surtout un de ses grands affluents, le Falémi. Parce que pratiquement tout le problème de dragage, d'exploitation minière mécanisée aujourd'hui se déroule le long de cet affluent. Aujourd'hui, a même pratiquement disparu dans certains endroits. Parce que tous les produits que ces gens-là utilisent sont déversés dans ce fleuve.
Face à l'urgence de la situation, la direction régionale de l'assainissement appelle à la mobilisation des partenaires pour la préservation des berges, cela dans le but d'éviter les pires.